Oui, alors quand j'ai proposé ce titre d'intervention, en fait, il y avait une part d'opportunisme assez large, ce qui pour la République n'est pas forcément absolument incompatible, hein, l'expérience de la Troisième le montre. Opportunisme parce que il fallait mettre des mots sur un travail qui était en cours et qui était en fait un travail sur le discours de la haine, pas du tout sur la République. C'est un travail que j'ai engagé maintenant il y a un peu plus d'un an. Et il fallait trouver une formule qui fasse le lien, et le lien est venu d'une formule précisément, mais qui est celle du serment civique de l'an 5, hein, je jure haine à la royauté, je jure haine à l'anarchie, je jure fidélité, enfin attachement et fidélité à la Constitution de l'an 3. Voilà. Et la question que je me suis posée, c'est est-il possible de fonder une république sur la haine ? Est-il possible de fonder une république sur la haine, puisque le serment, par le caractère qu'il a, par le caractère solennel qu'il a, et on va le voir par son extension, considérable, au fur et à mesure de sa mise en place, posait finalement un petit peu cette question-là. Alors, jurer haine, c'est une chose. Dire pour autant que la haine soit un sentiment républicain en est une autre. Et ça posait la question d'aborder la haine, cette fois-ci, comme sentiment, et donc la place du sentiment dans l'ordre politique. Alors, je ne m'aventurerai pas trop loin sur ce terrain-là, mais là encore, à la limite, la question n'a plus besoin d'être posée, parce que voilà la réponse qui est donnée. Elle est donnée par le citoyen Bailly, président de l'administration municipale du canton de Toulon, le 2 plus vieux aux anciens, qui est donc la première occasion dans laquelle est prêté ce serment, du moins dans sa formule définitive, hein, définitive en tout cas pour 2 ans. Voilà ce qu'il dit. Bon, il commence par rappeler que l'amour de la liberté est un sentiment aussi naturel à l'homme que l'amour de l'existence. Et puis lorsqu'il en vient à justifier le serment civique, il dit ceci. Le but de cette institution sacrée, il s'agit du serment, est de propager et de consolider l'horreur de la tyrannie et de la transmettre d'âge en âge. Ce serment est un devoir spécial pour les fonctionnaires publics, car c'est à eux, honorés du choix et de la confiance du peuple, à donner l'exemple des sentiments républicains. Peut-on en effet aimer la liberté sans haïr la royauté, son ennemi implacable ? Autrement dit, la question que je posais, elle est déjà résolue. La haine peut-elle être un sentiment républicain ? Oui, oui, puisque le citoyen Barry le dit. Hein ? Et alors là, ça me ramène un peu à un point de méthode par lequel je vais commencer mon exposé, qui est que le principe duquel je suis toujours parti au cours de mon travail, c'est de faire confiance d'abord à ce que disent les acteurs, au lieu de mettre en doute leurs propos. Et à partir du moment où un acteur de la Révolution me dit que la haine est un sentiment républicain, eh bien je le crois. Je le crois, et alors ça demande évidemment d'expliquer ce qui, pour nous, peut apparaître comme paradoxal, évidemment comme position. Alors, cela étant, la question n'est pas tellement résolu en fait, et donc je vais la reprendre un petit peu dans sa généalogie. Alors avant cela, je voudrais préciser le cadre général de réflexion dans lequel se situe ce travail, qui est, je le précise aussi, un travail exploratoire pour le moment. Ne serait-ce que parce que sur le plan archivistique, hein, je n'ai pas encore étudié tout le dossier, j'ai effectuer un certain nombre de sondages à des moments clés dans la compréhension de ce qui se joue, de ce qui est en débat, pas seulement en termes de républicanisme, et peut-être d'ailleurs n'avais-je pas parlé tant que ça de républicanisme, hein, mais ce qui est en débat autour de ce serment et autour de la formule qu'il a prise. Alors cette réflexion, elle s'inscrit dans un horizon plus large dont j'ai eu l'occasion de parler ici, en fait, au moins à une reprise, c'est-à-dire lorsque j'avais présenté il y a quelques années des réflexions qui étaient sur les manuels scolaires de la Troisième République et sur la question de l'émeute révolutionnaire, et où j'essayais d'avancer un petit peu dans ce que j'appelais des représentations négatives, des représentations sociales négatives, pour lesquelles j'avais essayé d'esquisser un certain nombre d'éléments de définition à ce moment-là. Depuis, j'ai poursuivi ce travail et je me suis rendu compte, alors que je travaillais sur des chantiers qui m'ont été parfois un peu imposés, comme c'est souvent le cas, hein, pour chacun d'entre nous, c'est-à-dire que le discours de la haine, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un travail du laboratoire auquel je participe, et qui s'est imposé comme recoupant tout à fait le travail que j'avais entamé justement à ce moment-là sur l'émeute et l'insurrection, qui du coup est resté un peu en plan, c'est de voir que finalement, je tournait toujours autour de questions qui avaient trait à la négativité sociale dans le discours politique. Et donc j'en suis venu à rassembler un petit peu tout ça et à inscrire donc cette réflexion et la réflexion d'aujourd'hui dans cette question: quelle est la place du négatif, quelle est la place du négatif dans le discours politique de l'époque moderne, en tout cas de la deuxième modernité et des débuts de l'époque contemporaine, puisque mon propos s'étend toujours à cheval sur le 18e et le 19e siècle. Ça, c'est la position que j'ai adoptée, considérant la révolution comme un poste d'observation particulièrement privilégié qui permettait de penser l'articulation entre ces deux moments, entre la société moderne au sens historique du terme, au sens qu'on donne en histoire à ce terme, et la société contemporaine. Alors quand je parle de négativité sociale, j'entends toutes les situations discursives, puisque c'est dans l'ordre du discours que je me situe toujours, toutes les situations discursives dans lesquelles s'exprime la crainte de voir détruites les conditions fondamentales du lien social. Rapidement dit, c'est un petit peu ça. Et dans cette dans ces craintes, il y a donc une peur sociale qui s'exprime, et il y a un certain nombre d'éléments qui sont de l'ordre de l'affect, plus que de la théorie politique, mais il y a bien derrière, et c'est ce que je m'efforce progressivement de faire émerger, des éléments de théorisation politique. C'est-à-dire que pour moi, la théorie politique ne se construit pas que dans le positif. Elle se construit, c'est-à-dire qu'elle ne se construit pas uniquement en développant quelle devrait être la forme idéale de gouvernement, pour faire vite. Mais elle se construit aussi en définissant, en cernant le poison, en quelque sorte, antisocial. En cherchant également à comprendre ce qui peut mettre à bas l'édifice social, ce qui peut le subvertir, ce qui peut le détruire. Et c'est donc ce point de vue que j'ai adopté. Alors ce qu'il y a, c'est que, quand je parle ici de théorisation, c'est une théorisation qui ne prend pas, en tout cas jusqu'à présent je ne l'ai pas rencontrée, je ne parle pas du nihilisme au 19e ou au 20e siècle, ou de courant de cette sorte-là, mais dans le moment où je me situe et sur le type de texte sur lequel je me situe, je n'ai pas rencontré ici d'affirmation de la validité de cette négativité. Autrement dit, ce sont des traces qu'il faut aller chercher un petit peu de ci, de là, au détour de discours qui n'ont pas, où cet objet n'est pas nécessairement central. Alors, c'est un travail que j'avais déjà fait avec l'anarchie. Je crois quand même avoir pu, dans ce travail sur l'anarchie, montrer que, contrairement à ce que disait Ferdinand Bruno, contrairement à ce que disait un certain nombre d'auteurs même, d'historiens de l'anarchisme, le mot anarchie au XVIIIe siècle n'est pas un mot vide de sens, mais qu'au contraire, il voit s'élaborer autour de lui, et à partir de lui, une forme de théorisation politique. Et c'est ces formes que j'appelle les théorisations négatives, et qui sont reliées à ce que j'ai appelé aussi des représentations négatives, cette fois-ci, circulant à l'intérieur de la société. Alors je ne reviendrai pas sur le thème de représentation négative parce que ce n'est pas celui que je vais mobiliser aujourd'hui. En revanche, pour en terminer avec cet aspect très général dans lequel s'inscrit mon propos, je dirais qu'au fur et à mesure de l'avancement de ce travail, il m'est apparu que cette négativité sociale pouvait être abordée de trois manières différentes. Et en fait, ce sont ces trois manières que j'ai rencontrées un peu au hasard, et je les donne dans l'ordre dans lequel je les ai rencontrées. D'abord, il y a bien une théorisation du négatif. Il y a bien une théorisation de ce qui peut provoquer la destruction de l'ordre politique, entendu comme ordre social, dans la logique du vocabulaire du XVIIIe siècle. Et ça, c'est l'anarchie. L'anarchie en est l'exemple type. Il se construit bien autour de l'anarchie dans le discours politique de la fin, de la deuxième moitié, disons, du XVIIIe siècle, dans le discours politique révolutionnaire plus encore. Il se construit bien ce que j'avais à ce moment-là appelé un antimodèle social. Un antimodèle social qui est extrêmement cohérent, en fait. Tellement cohérent que lorsque Proudhon va dire « je suis un anarchiste », il va en fait continuer d'employer la référence à cette anarchie négative, ce qui a fait dire à ses exégètes qu'il y avait incohérence dans son propos, incohérence dans sa pensée. Alors je ne sais pas s'il y a sans doute des incohérences dans sa pensée, mais en tout cas, si l'incohérence repose sur le fait que dans le même texte, parce qu'en 1863, dans un essai sur le fédéralisme, Proudhon effectivement use de l'anarchie de manière positive dans le discours politique, c'est-à-dire au niveau politique, dans la théorisation politique, et d'autre part, parle au contraire négativement d'une anarchie des forces sociales, qui est une anarchie des forces de production, ce qu'il appelle l'anarchie industrielle, dont le terme qui n'est pas le seul à employer, eh bien, en fait, il n'y a pas incohérence. Il y a au contraire cohérence de la pensée derrière une incohérence d'expression qui provient de ce que Proudhon n'arrive pas à récuser totalement, l'ancien sens du mot anarchie, qui est celui qui s'est construit précisément dans la Révolution française, et plus précisément encore, ça m'était apparu de façon assez nette, en l'an 3, dans la période de la Convention thermidorienne. Donc ça, c'est un premier cas. Le deuxième cas, c'est celui, au fond, que j'avais exposé à partir de l'émeute et de l'insurrection. C'est-à-dire ici, la description de l'événement. Il y a une deuxième manière d'aborder la négativité sociale dans le sens d'une approche historique, c'est d'aborder toutes les descriptions d'événements qui mettent en jeu la question de la destruction de l'ordre social et de l'ordre politique. Et les termes d'émeute et d'insurrection, je dis bien les termes puisqu'à chaque fois mon travail part des mots, je travaille sur les mots et sur leur sens, en les réinscrivant dans leur contexte historique, de ce point de vue-là, les termes d'émeute et d'insurrection relèvent bien de la description de l'événement et ils renvoient bien à une question, une fois de plus, de la relevant de la négativité sociale. Et puis le troisième niveau, c'est celui que je vais aborder aujourd'hui. Il n'était pas apparu comme tel tout de suite. C'est là encore par les nécessités, par les pressions, institutionnelles, qui font qu'il fallait prévoir quelque chose pour les quadriennales qui arrivent. C'est ce genre de choses-là, parfois, qui déterminent des choix, finalement, de recherche, qui m'ont obligé à sortir du chapeau un petit peu cette idée de la négativité sociale. Et puis, je me suis rendu compte que c'était sans doute pas sorti tout seul, que c'était bien un point d'aboutissement et de mise en cohérence, cette fois-ci, de mon travail. Donc, le troisième niveau, c'est celui du discours de la haine. Cette fois-ci, ce niveau, que pour l'instant, je ne sais pas très bien qualifier, qui est de l'ordre du sentiment, car la haine est bien identifiée comme un sentiment au XVIIe ou XVIIIe siècle, il n'y a pas d'hésitation là-dessus. Les dictionnaires en font foi, bien des auteurs en font foi, et l'exemple même duquel je suis parti le montre encore, s'il en était besoin. Donc je ne sais pas, de l'ordre des sentiments, des affects, des émotions, et du problème de leur contrôle. Ça, je crois que ça n'est pas Sophie, par exemple, qui me contredira, que dans l'ordre du politique, justement, la question du contrôle des affects est une question tout à fait essentielle dans la construction même de l'ordre politique moderne. Moderne, cette fois-ci, dans un sens volontairement large, c'est-à-dire englobant y compris notre ordre politique. L'ordre politique, disons, du XIXe siècle, en tout cas, celui de la Troisième République. Je ne me projette pas beaucoup au-delà de cette République, mais on pourrait peut-être le faire. Voilà. Alors, deuxième point de méthode qui terminera cette un peu longue introduction, mais à laquelle je tenais, pour situer un petit peu mon propos, c'est que lors de la dernière séance de notre séminaire, enfin qui était la première du séminaire de cette année, Florence nous a, de façon passionnante, mené dans la circulation des idées, cette circulation des idées qu'on trouve chez Skinner, dans son travail sur le républicanisme. Et moi, je voudrais plutôt vous inviter à la circulation des mots, cette fois-ci, à suivre la circulation des mots, qui, en fait, n'est pas évidemment sans lien avec la question de la circulation des idées. Mais je préfère toujours partir des mots. Pour quelle raison? Parce que si l'on partait de l'idée, c'est-à-dire de l'idée de haine, le risque serait de partir d'une idée a priori, le risque serait d'identifier à ce moment-là comme discours de haine, quand on parle de discours de la haine, toute forme de discours débouchant sur l'action violente ou relevant de la violence verbale, de l'injure, etc. Et dans ce cas-là, tout est dans tout, il n'y a pas tellement d'analyse possible. Et pour moi, la solution, elle est dans le type d'analyse dans lequel je me situe, qui est tout à fait restrictif, j'en conviens. Dans le domaine de la recherche historique, c'est de dire, voyons déjà ce que les mots veulent dire. Et là encore, l'expérience de l'anarchie m'a montré que derrière des usages apparemment incohérents, il y avait possibilité de restituer, et de restituer sans tomber dans des divagations personnelles, de restituer dans l'archive des trajets qui donnaient du sens à des mots qui en étaient apparemment à peu près dépourvus dans l'ordre politique. Alors j'en viens maintenant à l'exemple que j'ai retenu, parce qu'en fait j'ai commencé ce travail-là et je l'ai commencé avec l'aide de la base Frantexte, qui est mon point de départ habituel. C'était sur la base d'un travail de cette nature que j'avais parlé de l'émeute et de l'insurrection ici même il y a 3 ans. Et donc j'ai repris ce travail entre 1610 et 1914. J'ai un petit côté lavicien, à peine refoulé. qui fait que j'aime bien, comme ça c'est 110, hein, 1914 et belle date, enfin bref, entre le 17e et la fin du 19e siècle. Ça m'a donc permis de dégager un certain nombre d'évolution autour de ce mot, de l'usage du mot haine dans le vocabulaire qui n'est pas évidemment uniquement un vocabulaire politique, loin de là. Enfin, au total, c'est quand même 11 500 occurrences auxquelles je me suis attaqué sur 3 siècles, ce qui donnait déjà une bonne idée, même si la base Frontex ayant sa constitution particulière, c'est surtout du texte littéraire, ne suffit pas, bien entendu. Elle ne peut être qu'une base de départ. Après tout, c'est une base, donc c'est une base de départ. De ce travail-là est sortie l'idée de cette fois-ci de revenir, parce que évidemment m'est revenu en mémoire en abordant le discours de la haine, ce fameux serment donc de haine, hein, de jurer haine à. Alors moi à l'époque je l'avais abordé comme haine à l'anarchie, ce qui m'intéressait c'était la question de l'anarchie. Et je me suis rendu compte en reprenant le dossier que ça avait faussé ou plutôt limité la manière dont j'avais pu appréhender les débats qui sont autour de ce serment et qui sont des débats extrêmement longs. Finalement, et qu'il est intéressant de restituer d'abord dans leur chronologie. Donc c'est la première chose à laquelle je vais me livrer, c'est-à-dire de redonner un petit peu une chronologie rapide, simplement, des événements autour de ce serment. Les choses commencent en l'an 4. En fait, les choses commencent avant pour le serment civique, mais ça j'y reviendrai tout à l'heure, dans une autre mise en contexte de mon travail. Les choses commencent en l'an 4 ici, c'est-à-dire, même très précisément, on pourrait dire le 22 primaire de l'an 4, lorsque est adopté le principe d'un serment civique qui sera prêté par les fonctionnaires de la République, à partir donc de Pluviose, puisque le choix qui est fait dès ce moment-là, c'est le choix de prêter le serment au moment de l'anniversaire de la juste punition du dernier des tyrans. Reprendre l'expression de l'époque, encore que le dernier des tyrans en réalité soit non pas Louis XVI mais Robespierre, parce qu'il apparaît aussi comme le dernier des tyrans, donc il y a une petite ambiguïté, mais c'est quand même la formule qui est employée à ce moment-là dans le texte même qui fixe cette adoption du serment civique pour l'an 4. Alors le serment est prêté effectivement pour la première fois le premier pluviose de l'an 4, parce qu'en l'an 4 c'est le premier pluviose qui correspond au 21 janvier, ce sera ensuite le 2 pluviose pour les années suivantes, et le serment sera prêté régulièrement jusqu'aux 2 pluviose de l'an 7. On a donc 4 cérémonies de prestation du serment qui vont se suivre. Il est à noter qu'au premier pluviose de l'an 4, le serment qui est prêté n'est pas le serment dans sa forme de l'an 5. C'est un serment simplement de haine, dont la formule n'est pas d'ailleurs tout à fait très bien déterminée, mais qui est un serment de haine à la royauté et d'attachement et de fidélité à la constitution de l'an 3. C'est-à-dire que l'anarchie n'apparaît pas encore. Et c'est pourquoi d'ailleurs, à l'époque où j'avais travaillé moi, sur ce dossier, j'étais passé complètement à côté de ce moment-là, parce que la question de l'anarchie n'était pas en cause. Alors, toujours dans la chronologie des événements, dès l'an 4, ce serment qui paraît s'imposer dans un premier temps de manière légitime, pose problème. Il pose problème parce que le législateur découvre avec surprise que le fonctionnaire refuse de prêter serment. Et nous avons donc le 18 Ventôse de l'an 4, ce qui nous mène donc au 6 mars 1796, un rapport qui est fait sur les juges qui ont refusé de prêter le serment. Alors c'est intéressant parce que si ça porte sur les juges précisément, au même moment, à peu près en l'an 4, l'an 5, on discute, enfin en l'an 5 plus exactement, on discute de produire une loi qui casserait en fait, de fait, les jugements rendus en haine de la Révolution. Ce qui donne une idée de ce que pouvait être l'état d'esprit du corps judiciaire, en quelque sorte, si j'ose ce mot, parce qu'il n'y a pas corps judiciaire, entendu à ce moment-là, je crois qu'il y a corrélation entre le fait que les premiers fonctionnaires dont on se rend compte qu'ils refusent de prêter le serment sont les juges, et qu'en même temps se pose la question de ces jugements qui ont été rendus en haine de la Révolution dans la période thermidorienne, autrement dit. C'est de ces jugements-là qu'il s'agit. C'est sur cela qu'il s'agit de revenir à ce moment-là en l'an 5. Bon, la deuxième étape, c'est la mise en forme de l'an 5. La mise en forme de l'an 5, elle se fait le 22 Nivose de l'an 5, donc le 11 janvier 1997, à l'approche, autrement dit, de la cérémonie, du renouvellement de la cérémonie du serment. Et c'est là que le député Philippe de Leville, député du Conseil des 500, membre du Conseil des 500, représentant donc du peuple au Conseil des 500, propose d'ajouter au serment de haine à la royauté le serment de haine à l'anarchie. Alors cet ajout se comprend tout à fait dans la logique qui est celle du moment, qui est ce que j'avais appelé à l'époque la mise en cohérence du discours sur l'anarchie. Et en fait, ce serment recèle une ambiguïté qui à l'époque ne m'avait pas frappé parce que justement je n'avais pas trop suffisamment regardé le serment de haine à la royauté, c'est de savoir quel est le statut de l'anarchie là-dedans. C'est ce statut qui sera mis en cause en Thermidor de Lancette, lorsque le serment est contesté et finalement abandonné. Mais dans l'immédiat, ce qui apparaît clairement dans les débats, et je serai amené à y revenir, dans les débats qui vont suivre, car le serment ne s'impose pas sans débat, et surtout il fait débat après le moment où il s'impose, c'est de savoir ce que l'anarchie vient faire là-dedans. Et en fait, la plupart du temps, le débat porte non pas sur l'anarchie, mais bien sur la royauté. Ce qui pose problème, ce qui empêche certains fonctionnaires, ceux qui, en leur âme et conscience, si j'ose dire, de prêter le serment, c'est pas le serment de haine à l'anarchie, c'est bien le serment de haine à la royauté. Et l'anarchie apparaît dans toutes les justifications qui en sont données comme l'un des moyens, l'un des instruments par lesquels on peut ramener, par le désordre, à la royauté. Bon, ça m'a été expliqué sur l'anarchie, je ne vais pas revenir là-dessus. L'anarchie peut être soit l'instrument de la royauté, soit dans d'autres discours, mais manifestement le serment ne l'institue pas véritablement comme ça. Temporairement, l'anarchie apparaît comme l'un des deux fléaux, alors certains discours le disent tout de même, l'un des deux fléaux dont il faut garder la République, hein, une République du centre avec deux extrêmes dont il faut qu'elle se préserve. Bon. Mais la situation est ambiguë. Donc la formule est fixée aux 22 niveaux de l'an 5, elle est fixée par la loi deux jours plus tard, le 24 Nivose, et le serment sera prêté comme ça pour la première fois, donc le 2 Pluviose de l'an 5. Et là, après cette deuxième cérémonie de prestation du serment, eh bien, le débat va prendre une ampleur nouvelle. Il va prendre une ampleur nouvelle parce que le corps législatif, en fait le Conseil des 500, décide de proposer sur message du directoire exécutif, l'initiative vient du directoire exécutif, d'étendre le serment aux électeurs. Alors le débat se développe en Ventose, c'est à la fin de Ventose, entre le 25 et le 30 Ventose de l'an 5, donc entre le 15 et le 20 mars 1797, deux jours de débat au Conseil des 500, deux jours de débat au Conseil des Anciens ensuite, et donc débat dans lequel la question est de savoir: est-ce qu'on peut étendre ce serment, est-ce qu'on doit étendre ce serment, comme le propose le directoire exécutif, aux électeurs, donc dans la période électorale? Deuxième moment d'extension du serment, ça semblait aller de soi, mais apparemment ça n'allait pas de soi, puisqu'il faut une loi supplémentaire pour lui, on produit une loi supplémentaire pour lui, ce sont les prêtres. C'est l'extension du serment aux prêtres, et là, le débat va vraiment prendre toute son ampleur, finalement. C'est une loi du 19 Fructidor de l'an 5, donc au lendemain du coup d'état du 18 Fructidor, donc le 5 septembre 1797, une loi qui étend le serment aux prêtres. Alors c'est assez curieux parce que ça pose le problème aussi des prêtres fonctionnaires de la République ou pas. Alors que théoriquement, on aurait pu les considérer comme tels dès la mise en place du serment. On se rend compte que ce n'est pas le cas, en tout cas. Leur statut est un statut particulier et qui va provoquer un débat ici, un débat pas violent, parce que là, manifestement, autant que je puisse le mesurer par les textes dont je dispose à l'heure actuelle, ce qui est encore très fragile, le refus est quand même assez général. Le refus de prêter serment est assez général, y compris de la part de prêtres, et l'un de ceux qui contestent le fait que ces prêtres ne prêtent pas le serment, leur rappelle qu'ils ont en revanche accepté une loi très peu antérieure, du 7 Vendémiaire, qui leur faisait obligation de reconnaître les autorités de la République, et que cette loi, ils l'ont acceptée. Ils ont donc été soumissionnaires, mais ils les sont assermentés. Hein, il y a donc là une contradiction d'attitude. Alors là, on est dans le moment où le débat, je dirais le premier débat, celui de l'extension aux électeurs, est un débat, pour ce que j'en ai pour le moment, en tout cas comme trace, qui est un débat essentiellement parlementaire, hein, qui se joue au sein du corps législatif. Alors que le deuxième débat est un débat tout à fait public. Et c'est un débat public qui met en cause non seulement la question du serment de haine à la royauté, mais la question du serment en général. comme fondement possible, j'allais dire du contrat social, parce qu'on le verra, il y a bien une part de contractualisme dans la manière dont le serment est posé à plusieurs reprises. Alors la dernière étape, c'est en Thermidor de Lancette, donc au sein de la poussée dite néo-jacobine, hein, lorsque donc en les 6 et 7 Thermidor de Lancette, après une proposition de Jourdan, est mis en débat la formule du serment cette fois-ci. Et ce qui est mis en débat là, ça n'est plus la royauté, c'est bien l'anarchie. C'est bien l'anarchie, et les auteurs démontrent très, très clairement, d'ailleurs de façon très convaincante, que derrière l'anarchie, en réalité, c'est la République qu'on vise, c'est-à-dire la République de l'an 2, en fait. Mais plus largement, la République. Et que l'introduction de la haine à l'anarchie a été, je cite l'un des auteurs littéralement, un gage donné aux royalistes, en fait. Et le résultat, c'est que, effectivement, on reformule le serment, mais on le reformule de telle manière que la haine en disparaît complètement. La haine en disparaît complètement, puisque le 12 Thermidor de Lancette, donc le 30 juillet 1799, la formule est revue comme suit. Je jure fidélité à la République et la Constitution de l'an 3. Je jure de m'opposer de tout mon pouvoir au rétablissement de la royauté en France et à celui de toute espèce de tyrannie. Alors, bon. L'introduction de la notion de toute espèce de tyrannie correspond là encore à des choses qui se sont jouées autour de l'anarchie précisément et de la royauté en l'an 3 et sur lesquelles je ne reviendrai pas, mais voilà quel est le serment. Ce qui fait que, au terme de ce parcours chronologique, la question pour moi se pose, je disais au départ, j'avais mis ça sous forme d'un point d'interrogation, la haine peut-elle être un sentiment républicain? La réponse est manifestement oui, et bien en l'an 7 la réponse est manifestement non. Donc on est dans une difficulté quand même par rapport à ça. En tout cas, le terme de haine disparaît. Donc, je vais reprendre maintenant ces différentes étapes en articulant un petit peu autour, d'une part, de l'analyse des textes de prestation du serment. Donc ça, c'est la partie la plus officielle, disons, puisque à chaque fois, et bien que l'un des auteurs nous le rappelle, le législateur n'a pas voulu que l'on discutât la formule du serment une fois établie, c'est-à-dire n'a pas voulu qu'en prêtant serment on puisse en retrancher quoi que ce soit, hein. Malgré tout, on discute de la formule, hein. Et à chaque fois on réexplique la raison d'être du serment et le sens du serment, et bien entendu le sens de la haine, et en particulier, c'est là la chose qui m'avait échappé dans un premier temps, c'est bien la question de la haine à la royauté qui est la question essentielle qui est mise en débat. C'est-à-dire, peut-on jurer haine à la royauté, et qu'est-ce que cette haine à la royauté que l'on jure, hein, et dans quelle mesure cette haine peut-elle être véritablement fondatrice de la République et donc du lien social. Voilà. Alors ça, ce sera un premier aspect. Deuxième aspect, c'est le débat autour de l'extension du serment aux électeurs, qui se pose en des termes politiques, proprement politiques. Et puis le troisième débat, c'est le débat autour de l'extension, cette fois-ci, aux curés, hein, enfin aux prêtres, donc l'obligation qui est faite aux prêtres de prêter serment et la discussion que cela implique. Pourquoi je terminerai là-dessus et pourquoi je n'irai pas jusqu'en l'an 7? Parce qu'il me semble... Alors il y a deux raisons. Une raison tout à fait pratique qui fait que j'ai tout simplement perdu les documents dont je disposais, parce que j'avais tout ça, j'avais un dossier sur le débat de l'ancêtre. J'ai voulu remettre la main sur ce dossier, et au drame, alors que je croyais avoir tout ça sous la main, donc pouvoir... Eh bien, je n'ai plus ce dossier, pas moyen de le retrouver. J'avais tous les discours de Jourdan, de Montpellier, de Grenier, de Briot, je n'ai retrouvé qu'un seul des discours, qui n'est pas le plus intéressant d'ailleurs, et par conséquent, j'ai pas eu les moyens de, ne serait-ce que de reprendre un peu. Et puis, de mémoire quand même, je pense pouvoir dire que les termes du débat de l'ancêtre sont quand même très particuliers, parce que c'est la question de l'anarchie qui est en cause beaucoup plus que la question de la haine, finalement. Et que, de ce point de vue-là, il se démarque des débats de l'an 5 et de l'an 6 autour de l'extension du serment aux électeurs et aux prêtres. Hein. Et donc, ce serait une configuration un petit peu différente. En revanche, le débat sur l'extension aux prêtres est intéressant parce qu'il introduit des éléments qui vont me permettre de remonter un petit peu, c'est-à-dire de remonter vers le 17e, 18e siècle, hein, en amont de la Révolution française, et de suggérer quelques éléments de discussion d'une thèse dont Marc nous avait dit il n'y a pas très longtemps, ce livre, on peut le discuter, mais il est intéressant, hein, c'est le livre de Del Van Clay sur les origines religieuses de la Révolution française, d'une part, et puis peut-être retrouver au passage quelques-uns des propos, enfin, de façon incidente tout à fait, je ne sais pas, qui ont été tenus par Florence la dernière fois. Alors, si je commence par le serment civique lui-même, tel qu'il s'impose en l'an 5. Alors, un premier constat, mais là encore, je ne suis pas allé plus loin, d'abord, ce n'est pas un dossier que j'ai encore étudié, c'est que ce serment n'est pas isolé dans le contexte de la Révolution française. Ce n'est pas le premier serment qui est prêté, ce n'est pas le premier serment civique qui est prêté, et c'est y compris pas le premier serment qui met en jeu la haine. La haine comme fondement possible de l'association politique, finalement. Par exemple, on a en l'an 2, j'ai retrouvé déjà cette... Bon, c'est pas des choses inaccessibles, hein, d'ailleurs. C'est une proclamation de Mallarmé qui est envoyée par la Convention nationale pour remettre un petit peu d'ordre dans la Meuse et dans les départements de Meuse et de la Moselle, et c'est une proclamation qu'il publie à Verdun, en germinal de l'an 2, et dans laquelle, l'intitulé celui-là, en fait, il ne reprend pas du tout ça dans sa proclamation. Mais l'intitulé, quand même, comporte les mentions suivantes. Donc, au nom de la République française, une indivisible et populaire, égalité et fraternité aux sans-culottes, terreur aux aristocrates, haine aux modérés. Ça ne se présente pas comme un serment, mais enfin ça ressemble quand même pas mal. C'est de l'ordre, comme ça, de l'imprécation en tout cas politique. Et donc, ça n'est pas propre à la République directoriale, autrement dit. Mieux encore, dans les textes sur lesquels j'ai travaillé pour la République directoriale, il est fait allusion à un serment alors que je ne connais pas, mais que peut-être vous connaissez, moi je ne le connais pas, donc je ne sais pas s'il est vraiment formulé dans ces termes-là. C'est un serment dont on nous dit qu'il aurait été prêté à l'Assemblée législative en 1791, de haine aux deux chambres et de haine à la République. Alors je ne connais pas ce serment. Je ne suis pas sûr que ce ne soit pas une reformulation. Est-ce que c'est bien formulé en termes de haine en 1791, ou est-ce que c'est une reformulation parce que, en l'an 5, la haine est à l'ordre du jour, je dirais, en quelque sorte. Hein. Mais en tout cas, le serment n'apparaît pas isolé, de ce point de vue-là. Et puis, la haine, évidemment, est présente dans le discours politique révolutionnaire, soit qu'on la récuse, soit qu'on l'admette. L'expression de haine publique, on la rencontre, hein, j'ai dans les textes, même si je passerai rapidement sur ces... Il y a des occurrences de la haine qui n'ont rien à voir avec la question du serment civique, qui introduisent une autre dimension de la haine, cette fois-ci. Haine publique, il y a la haine contre les Jacobins, on parle des haines proférées contre les anarchistes, la haine vouée aux propriétaires, en 3, hein, on dénonce les anarchistes comme ayant voué une haine féroce aux propriétaires, etc. Et puis donc, ce que je disais, en l'an 5, cette question qui est en débat au Conseil des 500, de la manière de revenir sur des jugements qui auraient été prononcés en haine de la République, ou en haine de la Révolution, puisqu'on va trouver les deux formules. Bon. Alors, le serment, donc, doit être prêté dès l'an 4, hein, des plus vieux de l'an 4, et le premier texte qui en fixe les conditions, c'est une directive de Merlin Douai, qui est envoyée en tant qu'il est alors ministre de la police générale de la République, et il envoie donc ce texte aux différentes administrations municipales, aux différents administrateurs, puisque c'est adressé au singulier à chaque fois le texte. Le texte est du 30 niveaux de l'encadre de la République et il fixe les conditions dans lesquelles va se dérouler la fête du premier pluviose de l'an 4. Citoyens, c'est demain le premier pluviose, 11h du matin, que conformément à l'arrêté du directoire exécutif du 25 en exécution de la loi du 23 de ce mois, vous devez vous rendre à l'école militaire et de là, au champ de la Fédération, pour y exprimer par un serment solennel la haine que vous avez vouée à la royauté et l'attachement que vous avez manifesté pour la République en acceptant les fonctions honorables que vous exercez. Alors je note d'emblée la disparité d'expression entre une haine que l'on voue à la royauté et un attachement que l'on manifeste à la République. Ça met en jeu deux situations, c'est-à-dire d'une part l'acte par lequel on va extérioriser une position, qui est une position d'adhésion que l'on attend des fonctionnaires, et d'autre part, le sentiment sur lequel va reposer cette adhésion. Et cette dualité entre intériorité et extériorité, c'est l'un des arguments qui est utilisé par les prêtres qui refusent le serment. ils vont arguer justement de ce que c'est que la haine est un sentiment, donc qu'elle est de l'ordre de l'intérieur et que la République n'a rien à voir là-dedans, qu'elle n'a pas à intervenir, que le législateur n'a pas à intervenir. Et on va voir que c'est l'un des arguments politiques, avant d'être un argument religieux en quelque sorte, qui fait appel à la question de la conscience et de la défense de la conscience, de la liberté de conscience, c'est d'abord l'un des premiers arguments politiques qui va faire récuser le serment lui-même et son extension en particulier aux électeurs en Ventouse de l'an 5. Voilà donc le point de départ. Et dès ce moment-là, se manifestent donc des premiers refus. Et là, les autorités républicaines sont manifestement prises de court. Elles sont prises de court. Voilà ce qu'il est dit par Treillard, le 18 de Ventouse de l'an 4, hein, puisqu'il doit faire un rapport. Il y a une commission qui est constituée pour rendre compte du message du directoire qui alerte sur le fait que des juges ont refusé de prêter serment de haine à la royauté. Et il dit ceci, si l'on nous demande pourquoi le corps législatif n'a pas prononcé de peine contre le fonctionnaire qui balancerait à prêter serment, contre le fonctionnaire républicain, qui balancerait à prêter serment de haine à la royauté, nous répondrons aussi parce qu'il a repris, il a pris la métaphore, il a fait allusion à Solon, en fait, à Solon et en loi de l'Athènes du VIe siècle. Nous n'avons pas pu croire qu'un pareil fonctionnaire dût exister. C'est-à-dire que l'argumentation, elle est tout de suite, elle se place tout de suite du côté de la conscience, donc du côté du sentiment, effectivement. Alors qu'on est dans l'ordre politique ici. Les hommes mêmes que vous avez choisis pour être les juges de la nation refusent de maudire la royauté, et ce sentiment de haine, c'est bien l'expression qui est employée, que le peuple français voue au tyran, il le voue à la République. Et là, je crois qu'on est tout de suite dans le cœur du débat. C'est bien, quand même, la haine peut-elle être un sentiment républicain? C'est bien en tant que sentiment, et que sentiment susceptible de fonder la République, que la haine se trouve mise ici en débat, et se trouve mise en balance. Voilà. Alors, en l'an 5... En l'an 5, donc, le débat et le serment est prêté cette fois-ci sur sa nouvelle formule qui a été adoptée, non sans discussion, mais c'est aussi un débat que je laisse celui-là de côté pour me concentrer sur les débats de l'an 5 et de l'an 6, sous la nouvelle formule, donc, sur la de haine à la royauté et de haine à l'anarchie. Et à ce moment-là, donc, Pluviose de l'an 5, voilà quelle est l'explication qu'en donne, la justification qu'en donne le président du Conseil des 500, puisque à partir de ce moment-là, c'est le président ce sont les deux présidents, en fait, qui vont prêter en séance serment au nom de leurs collègues. Et à chaque fois, le discours, donc c'est des discours qui sont relativement stéréotypés, en fait, sur les 4 ans où le serment va être prêté, hein, enfin sur les 3 ans où il est prêté dans sa formule réelle, en 5, en 6, en 6, en 7, le discours est assez stéréotypé, mais il permet de voir quel est l'argumentaire qui le justifie, finalement. Là encore, le déséquilibre est tout à fait flagrant. Parce que voilà ce qu'il dit concernant la validité du serment. 15 mois d'une expérience journalière nous ont prouvé les avantages de notre charte républicaine et ont arraché quelques approbations même à ses plus ardents ennemis. C'est preuve un peu d'optimisme, mais on peut le lui pardonner. Mais vous voulez conserver ce trésor, allumez et nourrissez de toutes parts le feu sacré de la liberté et proclamez sans cesse la haine de la royauté et l'horreur de l'anarchie. C'est-à-dire qu'au moment de prêter le serment, et alors qu'il va, effectivement, au terme de son discours, prêter le serment dans la forme, au moment où il l'explicite, il détache la royauté de l'anarchie, en fin de compte, pour attribuer la haine à la seule royauté, et attribuer à l'anarchie un autre terme, l'horreur de l'anarchie, qui n'est quand même pas de même nature, hein, dont on pourra s'accorder à dire qu'on n'est plus pas sur le même registre. Alors ensuite, il va utiliser, je dirais qu'il recourt au sens commun, au sens communément admis du XVIIe, XVIIIe, qui a institué, sans doute avant, mais enfin moi je ne suis pas remonté avant, le couple amour-haine, comme étant tout à fait constitutif du vocabulaire des passions, à tel point d'ailleurs qu'on a aussi des théorisations littéraires hein, au, Au XVIIe siècle, on a des textes qui disent en quoi la haine entre comme élément constitutif du drame par essence, en quoi elle est l'élément de l'intrigue, hein, le cœur de l'intrigue, et comment fonctionne le couple haine-amour. Donc c'est assez intéressant de regarder du côté des tragédies du XVIIe de ce point de vue-là. Haïr la royauté, c'est aimer le peuple, c'est sentir la dignité de l'homme, c'est rendre hommage à la véritable souveraineté, c'est vouloir la République. Alors là, c'est très clair, haïr la royauté, c'est vouloir la République. La haine est bien le moyen possible pour fonder cette République. Voilà. Alors ensuite, il va revenir sur la question de la haine en disant « En vain, la raison dit à l'homme, rien de trop, les passions l'entraînent d'un excès à un excès opposé. » Alors, c'est ambiguïté parce que les passions sont mobilisées d'un côté comme étant validées finalement dans le champ dans l'ordre du politique, puisque la haine est une passion et que c'est une passion qui peut fonder la République, mais en même temps il faut se méfier du désordre engendré par les passions. Hein, c'est-à-dire que là et encore, il y a un double emploi du terme qui brouille un petit peu le discours ou qui le rend plutôt paradoxal. Les passions l'entraînent d'un excès à un excès opposé, dans un pays surtout. Arène ensanglantée de haines et de réactions, c'est-à-dire que là il réintroduit le terme de haine, mais plus du tout dans la logique de la question du serment, mais au contraire comme étant la haine négative, cette fois-ci c'est la haine des factions, alors là c'est l'héritage politique, hein, c'est la haine des Capulet et des Montaigu, qu'on voit traverser un peu tout le discours proto-politique, je dirais, du XVIIe siècle, hein, qui est déjà très, très présente, qui est la première manière, la première incursion, je dirais, de la haine dans l'ordre du politique. Donc là encore, on est dans deux ordres de discours qui se rencontrent un petit peu, qui se télescopent d'une certaine manière. Hein, donc, arène ensanglantée de haine et de réaction où les institutions publiques ne sont pas encore fortement enracinées, tout marche ou rétrograde rapidement. Voilà. Et il en vient évidemment à expliquer comment on a pu dériver vers l'anarchie. Et il dit ceci d'ailleurs, ce qui n'était qu'une opinion. Encore les glissements de termes. Il y a tout un travail sémantique qui est fait par les révolutionnaires eux-mêmes dans leur discours qui sont tout à fait passionnants. Ce qui n'était qu'une opinion se change en un sentiment profond et actif. Donc l'opinion serait inactive, le sentiment lui est actif. Et les sentiments se dénaturent, affaiblissent ou exagèrent par l'esprit de parti. La douceur devient faiblesse, le courage férocité, on hait par commisération. On assassine par humanité, on venge des victimes par des victimes. Voilà. Voyons en quoi il conclut quand même. Mais que les souvenirs des crimes révolutionnaires n'effacent pas celui des crimes de la royauté, que votre haine contre les terroristes ne s'étende pas aux républicains, ce sera exactement le débat de Lancet, c'est-à-dire que 2 ans avant, il a anticipé sur le problème que posait l'introduction du serment de haine à l'anarchie. Jurez comme nous haine à la royauté, haine à l'anarchie. Marcher d'un pas ferme entre ces deux extrémités également funestes, c'est dans un juste milieu que vous trouverez la liberté et le bonheur. Voilà. Alors, je pourrais reprendre l'analyse des textes, mais je ne vais pas le faire, évidemment, et qui sont prêtés en dehors, cette fois-ci, du corps législatif. J'ai cité le citoyen Barry tout à l'heure. Il a, lui aussi, tout un discours de justification, qui est au fond assez proche, du serment de haine et de sa validité. Et en particulier, il revient, lui, sur les sentiments d'orgueil et d'ambition. Et là encore, les sentiments d'orgueil et d'ambition sont des sentiments qui sont discutés en relation avec la haine dans l'ordre politique dès le XVIIe siècle, pratiquement. Hein, en tout cas, dès la deuxième moitié du XVIIe siècle. Les justifications de ce serment, elles sont maintenues d'une manière tout à fait intéressante jusqu'au bout, jusqu'en Lancet. Et je voudrais simplement citer, pour terminer cette partie-là, le serment qui est prononcé en Lancet par le citoyen Mulot, qui se dit ancien député de Paris à la première législature, professeur de belles lettres, membre du lycée des arts et de la Société libre des sciences, lettres et arts de Paris, et qui est en fait administrateur à Mayence, donc dans les départements nouvellement créés sur le Rhin. Alors d'abord il propose un hymne à l'être suprême, en introduction de d'un opuscule dans lequel se trouve son discours, puis un discours et pour terminer une imprécation contre les parjures. Parce que les parjures, on le sait, désormais existent. Et dans le discours, il justifie je crois, il justifie les serments. Il parle de l'ancienneté et de la légitimité des serments dans l'ordre politique, et en particulier de leur effet bénéfique. Et voilà ce qu'il dit. On est donc là en lancette, c'est-à-dire au moment où le serment va être fortement mis en cause cette fois-ci, dans sa formule. « Voyez quels efforts les membres du directoire exécutif font pour le maintien et la gloire de la République. Voyez l'harmonie qui règne au sein des deux conseils dans les plans conservateurs de la République. Voyez l'accord des administrateurs, des juges et de toutes les classes de fonctionnaires pour arriver au même but. » Le même serment échauffe nos guerriers. Il y a aussi tout un passage sur l'armée. Le terme qui m'a frappé ici, c'est évidemment l'association du terme d'harmonie à la haine. C'est-à-dire la haine peut conduire à l'harmonie sociale. Jurer haine, ça peut être assurer l'harmonie dans l'ordre social, dans l'ordre politique. Aussi conclut-il à la nécessité d'étendre ce serment au nouveau département. Et là, alors là encore, un dossier que je n'ai pas encore étudié, manifestement, dans les nouveaux départements, la République est prudente. Et il dit ceci, au milieu de cet accord harmonieux et touchant de toutes les voix des fonctionnaires de la France, nous, fonctionnaires des départements nouvellement formés sur les rives du Rhin, voudrions-nous, timides et trop discrets, nous borner au serment que la prudence du commissaire du gouvernement lui a fait tracer dans les règlements particuliers qu'il a publiés dans ce pays. Alors, je n'ai pas le serment en question. C'est intéressant de savoir quelle est cette prudence dont parle le citoyen Mulot, mais qui lui dit, sans doute la loi n'en exige pas davantage, mais chargé des fonctions augustes de faire régner dans ces contrées les lois républicaines, chargé de les faire aimer et prospérer, chargé de former les esprits à la connaissance et à l'amour de ces lois, pouvons-nous remplir nos devoirs si le sentiment généreux de la haine de la royauté n'est pas dans nos cœurs? Et s'il s'y trouve, comment pourrions-nous, en comprimer l'élan, quand toutes les voix de tous les Français qui nous environnent le manifestent avec tant d'ardeur? Le sentiment généreux de la haine de la royauté et l'association de l'amour à la haine. Et là encore, je remonte un petit peu en arrière, et sans vous citer cette fois-ci les textes du XVIIe siècle dans lesquels se rencontre cette justification, il y a dans les théories des passions du XVIIe, sur lesquelles je reviendrai un peu quand même tout à l'heure, il y a dans ces théories des passions, là encore, une double position du couple haine-amour. Soit une position antinomique, la haine et l'amour s'excluent l'un l'autre et s'opposent tous deux, comme étant les passions considérées d'ailleurs comme fondamentales, c'est-à-dire les passions desquelles découlent toutes les autres passions dans l'ordre des sentiments humains. Et ça c'est très clairement explicité, et c'est développé dans de véritables théories des passions du XVIIe, qui sont reprises au XVIIIe siècle sous une forme laïcisée, sécularisée, etc. Bon, mais ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Et puis l'autre position possible, c'est que, en fait, derrière cette opposition apparente de l'amour et de la haine, il y a en réalité une identité de nature qui fait que l'amour et la haine relèvent bien d'un seul et même sentiment. Et dans ces conditions-là, l'association ici de l'amour à la haine devient tout à fait compréhensible. Voilà. Alors en même temps, et finalement ça me permet d'engager, parce que comme j'ai tardé un peu sur cet aspect-là, ça me permet d'avancer les arguments qui sont ceux du débat sur l'extension aux électeurs, enfin certains des arguments, eh bien cet auteur dit ceci. Non, ce n'est pas la haine des rois comme individu que la France désire dans le cœur de ses fonctionnaires. Il faut penser que nous sommes dans des territoires qui, naguère, sont des territoires soumis à autorité monarchique. Et donc ça pose un petit problème, manifestement. Donc ce n'est pas la haine des rois comme individus que la France désire dans le cœur de ses fonctionnaires. C'est la haine de la royauté en général comme fléau de la nature. C'est la haine surtout de la royauté en France, où chacun de vous veut jouir de la liberté et de tous ses droits incompatibles avec les droits du trône. Et ici on voit comment la question de la haine va s'insérer de façon très nette dans des débats qu'on a parcourus ici assez régulièrement, qui sont des débats autour du droit naturel. Ici, c'est le droit naturel qui intervient. Alors, curieusement, dans un moment où pourtant le droit naturel s'efface constitutionnellement, dans la constitution de l'an 3, mais où malgré tout, un certain nombre d'éléments de ce droit naturel et surtout de la logique contractualiste qui est derrière, ressurgissent ici dans ces propos-là. Et puis, deuxième question, c'est la haine de la royauté en général. Alors ça, c'est une grosse difficulté, justement. Tout l'effort de ceux qui veulent conduire les fonctionnaires récalcitrants, et en particulier les prêtres, à prêter le serment, est de leur dire, ça n'est pas un serment de haine à la royauté en général que nous vous demandons de prêter, c'est un serment de haine au rétablissement de la royauté en France. Parce que l'argument central, enfin l'un des deux arguments utilisés couramment pour justifier le refus de prêter serment pour les prêtres, c'est de dire nous n'avons pas à prêter serment à la haine, à la royauté en général. Ça n'est pas possible parce que c'est contraire à l'esprit évangélique. Bon. C'est une autre question, mais en tout cas c'est la façon dont le débat est amorcé, dont les termes en sont donnés. Alors si je passe maintenant à un premier débat qui est le débat sur l'extension aux électeurs. J'avais retenu deux textes qui font l'exposé des arguments pour et contre. Je vais passer un petit peu dessus pour essayer de rassembler simplement quels sont les arguments qui, dans un débat qui est un débat politique, sont mis en jeu autour de cette question du serment. Quels sont les arguments qui sont utilisés? On peut les réunir sous quatre catégories. Il y a quatre catégories qui interviennent. Des arguments qui sont purement constitutionnels, donc tout à fait juridiques. Des arguments politiques. Des arguments pragmatiques, qui ne sont pas les plus forts, mais qui sont pourtant régulièrement présents. Et puis enfin, des arguments moraux. Enfin, j'ai utilisé le terme de morale, faute de mieux, avec l'extension qu'il peut avoir, éthique, pourrait-on dire, hein, à la fin du XVIIIe siècle. Alors, si j'en viens aux arguments constitutionnels d'abord. Les arguments constitutionnels sont surtout manipulés par ceux qui s'opposent à l'extension du serment aux électeurs. Je rappelle que la question est là, c'est d'étendre le serment au corps des électeurs de la République. Bon. Ceux qui sont contre utilisent les arguments suivants. Premier argument, c'est une modification de la Constitution. La Constitution dit clairement que les conditions pour être électeur, c'est d'avoir 25 ans et d'être propriétaire. Cette Constitution a été adoptée par le peuple français souverain. Il a été soumis au vote du peuple français souverain. Et seul un acte de même nature, donc du peuple souverain, pourrait en modifier le contenu. Or, disent ceux qui développent cette argumentation-là, introduire le serment, c'est-à-dire astreindre les électeurs à prêter le serment, c'est en fait introduire une condition supplémentaire à l'exercice de leurs droits. C'est donc modifier la Constitution. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est aller contre la Constitution elle-même. Donc premier argument de rejet. Alors évidemment il y a une argumentation contre, hein, qui est de dire mais non absolument pas, comme le serment relève justement de l'attachement légitime à la République que chacun partage, ça n'est pas une question constitutionnelle et ça ne pose pas de problème. Il n'y a pas d'opposition de principe à ce que les électeurs prêtent ce serment. Bon, j'y reviendrai tout à l'heure, ça pose la question de la continuité du corps politique, de la façon dont on envisage le corps politique. Et c'est de l'argument politique, et non plus constitutionnel, en fait. Donc, deuxième argument constitutionnel, et qui est toujours du côté de ceux qui récusent la possibilité de l'extension, c'est la séparation des pouvoirs. C'est la séparation des pouvoirs, et qui, en fait, se traduit de la manière suivante. Au fond, toutes les déclarations qui ont été faites depuis la déclaration de 1789, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ont garanti une chose, au moins, c'est la liberté de conscience des individus. Et le directoire exécutif, puisque c'est lui qui est à l'initiative, c'est-à-dire qu'en fait, là, on est aussi dans un débat qui affronte les pouvoirs au sein de la République, qui affronte les directeurs aux assemblées, et nous sommes, je le rappelle, en ventose de l'an 5, hein, dans des moments où il y a des tensions qui vont quand même se faire sentir, entre ces différents pouvoirs, hein, sous peu. Donc, c'est la séparation des pouvoirs. Le directoire n'avait pas à intervenir dans ce domaine-là, qui ne relève pas de son autorité, parce que c'est une ingérence dans la sphère du privé. Et là, on a bien un argument qui distingue, je reprends là une terminologie bien connue, mais qui vient d'Habermas, qui n'est pas du tout la terminologie du 18e ou de la Révolution française, mais qui est bien la distinction entre sphère publique et sphère privée. Et le directoire et le législateur interviennent dans la sphère publique, mais n'ont pas à intervenir dans la sphère privée. C'est une ingérence dans les consciences, et on n'a pas à fouiller, et c'est légitimement qu'on refuserait une loi qui, et là je cite un des textes de l'époque, qui fouillerait dans les consciences et dans l'esprit, et dans la pensée des citoyens. Et puis, le troisième élément, mais qui celui-là est un élément qui n'est pas un argument ni pour ni contre, je dirais, mais qui est mis en jeu, c'est de dire, étendre le serment, c'est poser la question de savoir qui sont les fonctionnaires de la République. Les fonctionnaires de la République sont-ils seulement les magistrats en poste, ou bien les électeurs sont-ils des fonctionnaires de la République ? Et donc, il y aurait peut-être une étude d'ailleurs à faire autour de ce mot fonctionnel et de ce qu'il peut signifier à ce moment-là. Et de ce point de vue-là, un certain nombre d'auteurs disent, mais non, les électeurs sont bien des fonctionnaires de la République. Ils ont même été élus par les assemblées primaires. Or, il n'est à aucun moment d'ailleurs question d'étendre le débat aux assemblées primaires. Seules les assemblées électorales sont concernées. Et dans le moment où ils élisent, ce sont bien des fonctionnaires, et des fonctionnaires, nous dit-on, chargés de la plus noble des tâches, de la plus sacrée des tâches, qui est d'élire les magistrats de la République. Et par conséquent, il est légitime, si on a demandé aux magistrats de la République le serment d'adhésion, qui est le serment de haine à la royauté, à l'anarchie, etc., eh bien il est légitime de le demander aux électeurs. Car les électeurs sont bien des fonctionnaires, et l'argument pour justifier cela, c'est de dire ce qui fait la fonction, ce n'est pas la durée. La durée qui est annuelle, donc pour l'ensemble des fonctionnaires de la République à ce moment-là, ce n'est pas la durée, c'est la nature de l'acte accompli. Et l'acte électoral, ici, est bien un acte qui engage, au même titre que les actes des fonctionnaires de la République, des magistrats, des fonctionnaires entendus, c'est aussi comme magistrats de la République. Alors, du côté des arguments politiques, on n'en était pas loin déjà avec notamment la question de la séparation des pouvoirs. Du côté de l'argumentation politique, ce qui justifie cette fois-ci l'extension aux électeurs justement de ce serment, c'est une conception qui ne divise pas le corps politique. Autrement dit, qui intègre les fonctionnaires dans le corps politique, qui n'admet pas, autrement dit, la division entre gouvernants et gouvernés, d'une certaine manière. Il y a curieusement une argumentation qui vise à dire, au fond, que les gouvernants et les gouvernés, il n'y a pas deux catégories ici, et que tous sont astreints aux mêmes lois, et que tous sont astreints aux mêmes obligations, finalement. Et que tous s'engagent, autrement dit, de la même manière. Et ici, l'argument conduit, en fait, le deuxième aspect de cet argument, c'est qu'on est bien dans la logique, me semble-t-il, d'une interprétation contractualiste de la société. Si le serment de haine à la royauté, haine à l'anarchie, fidélité à la Constitution, est le serment qui engage le contrat d'association primitif, c'est moi qui ajoute primitif, il n'est pas utilisé dans les textes, mais enfin, on retrouve une argumentation qui a une teneur que l'on connaît dans justement tout le débat contractualiste du XVIIe, du XVIIIe siècle. Eh bien, si ce serment est bien conçu comme l'élément qui engage l'association politique, alors il est logique que ce contrat soit passé par l'ensemble des membres du corps politique. Donc y compris par les électeurs. Mais on note là un défaut dans l'argumentation qui est que, y compris les électeurs, mais on ne parle toujours pas des assemblées primaires. Alors ce ne serait pas l'ensemble des citoyens malgré tout qui seraient engagés par le contrat. D'autre part, dans cet exposé des arguments contractualistes, et je ne reprendrai pas d'exemple ici pour avancer suffisamment, n'apparaît pas le caractère réciproque du contrat, c'est-à-dire l'engagement réciproque du contrat. Il est bien dit, les arguments qui sont utilisés sont de dire que c'est un engagement devant la loi qui est pris par ce serment. C'est pas un contrat réciproque, en fait, entre les différents membres du corps politique. En tout cas, il n'est pas argumenté en ces termes-là. On voit donc que c'est un argument de type contractualiste, mais qui est un petit peu biaisé, qui est un petit peu modifié par rapport à la logique du contrat social conçu dans l'horizon du droit naturel, je dirais. Alors, est-ce qu'il faut relier ça avec le fait que ce droit naturel a disparu de la Constitution de l'an 3, précisément, hein, comme référence, je crois que là, pour le coup, Florence, dans ses travaux, l'a suffisamment largement démontré, je ne sais pas si c'est directement lié, mais en tout cas, la corrélation est quand même assez visible. Alors, troisième type d'argument, ce sont les arguments pragmatiques, cela on peut passer assez rapidement, c'est-à-dire, justement, c'est là qu'apparaissent les assemblées primaires. Si vous demandez aux électeurs de prêter serment, regardez la façon dont les choses se sont passées dans nos précédentes élections. Nous sommes en l'an 5, il y a déjà eu les élections. Regardez, en gros, vous m'excuserez le changement de niveau de langage, ça a été un sacré foutoir comme ça, on ne va pas recommencer. On ne va pas en ajouter. Et l'idée, c'est, que va-t-il se passer si les électeurs refusent de prêter serment? À ce moment-là, vous introduisez par le serment un élément de discorde à l'intérieur du corps politique. Et qu'en est-il des assemblées primaires? Comment à ce moment-là va se passer l'articulation entre ces électeurs qui refuseront de prêter le serment, donc qui refuseront de respecter les engagements tacites vis-à-vis des assemblées primaires, donc de l'ensemble du corps de la nation? Autrement dit, le serment est un germe de discorde. L'extension en tout cas du serment aux électeurs, parce qu'on ne discute pas à ce moment-là le fait que les fonctionnaires, eux, prêtent ce serment, mais ça veut dire qu'on en limite l'effet et qu'on en limite surtout la portée. Et que justement, ça montre l'ambiguïté de ce serment conçu comme sentiment de haine, et la place que le sentiment peut prendre ou pas dans l'ordre politique. Parce qu'on essaie de l'exclure du domaine de l'affect, précisément. Alors l'autre argument pragmatique, qui celui-là est tout à fait, c'est, regardez, la République ne cesse de signer des traités avec les rois, et des traités qu'elle considère comme sacrés. Donc il n'y a pas de problème, ce n'est pas la royauté en général qui est mise en cause. Hein, une fois de plus, il n'y a pas de crainte de ce côté-là, c'est bien la question de la royauté en France et de son retour en France, donc du respect en fait. Ce qui est important, ce n'est pas la haine à la royauté, c'est l'attachement à la Constitution, l'attachement à la République. Et ça n'empêche pas la République, elle, de traiter régulièrement, de signer des traités, de respecter ses accords. Et même d'ailleurs de les respecter davantage que les autres parties, la plupart du temps, ajoute-t-on. Et par conséquent, la diplomatie de la République nous démontre ce qu'est réellement ce serment et ce que sont ses limites. Cette question des limites, c'est une question qui va devenir d'autant plus importante quand va se poser la question du serment des prêtres. Hein, on va le retrouver. Et puis enfin, donc, il y a les arguments moraux, mais ces arguments moraux, ils m'amènent justement au débat suivant, c'est-à-dire, peut-on, par un acte extérieur, le serment, contraindre le sentiment qui est de l'ordre de l'intérieur ? C'est tout le rapport, évidemment, entre le public et le privé, ici, mais sous une forme particulière, et c'est là qu'intervient le débat sur le serment des prêtres, parce que ce débat va reprendre en priorité cet argument-là pour invalider la possibilité d'un serment pour les prêtres. Alors, dans ce serment, quelles sont les raisons qui ont été avancées d'abord pour le refus ? Le serment est donc étendu officiellement au 19 fruitiers d'or de l'an 5, il aurait donc dû être prêté en l'an 6, et par conséquent, là, c'est un débat qui se développe dans l'an 6, c'est-à-dire, pourquoi il se développe là ? Parce que, justement, au plus vieux de l'an 6, sorte est de constater que, majoritairement, le corps ecclésiastique refuse de prêter serment. En fait. Et donc à ce moment-là, il y a quand même une difficulté qui se présente et qu'il va falloir traiter. Alors, j'ai trouvé un texte qui est assez clair quant aux arguments qui sont développés pour refuser le serment, texte dont je n'ai pas l'auteur, mais à vrai dire, étant donné la façon dont il fonctionne, je le soupçonne assez fortement, même si c'est peut-être pas lui, hein. Ce sont de courtes réflexions faites à l'occasion du serment de haine à la royauté et à l'anarchie, attachement à la fidélité et fidélité à la Constitution de l'an 3. C'est un texte qui doit dater parce qu'il n'est pas, il est sans lieu ni date, hein, ça fait partie de ces textes, et il n'est pas identifié par les conservateurs de la Bibliothèque nationale, c'est bien dommage, mais qui se situe entre Ventos et Thermidor de l'an 7. Je dis Thermidor parce qu'après Thermidor, il n'aurait plus tellement de raison d'être. Encore que, mais là ce sont des textes là encore que je ne mobiliserai pas aujourd'hui, en 1800 encore, on trouve un opuscule qui comporte quand même près de 70 pages sur la question du serment, et qui est en fait la question du serment des prêtres. Donc qui est rediscuté alors que 1800 nous sommes à l'approche cette fois-ci du concordat. Donc là la question de ce serment tel qu'il s'était posé revient encore alors que ce serment a complètement disparu et que la République directoriale elle-même a disparu. Mais le débat se poursuit dans l'émigration, puisque c'est un texte qui est publié hors de France. Alors ces courtes réflexions, je ne sais donc pas où elles sont publiées, le lieu aurait été intéressant, mais vu la manière d'argumenter de l'auteur, il me rappelle fortement les questions nationales de l'abbé Baruel en 1791. C'est-à-dire un art assez consommé, je sais bien que Baruel est traité comme étant assez grossier dans ses arguments, assez sommaire, etc. Hein, j'ai rencontré ça sous des plumes autorisées de 1901, de la Révolution. Moi, je ne suis pas très convaincu, parce qu'en lisant les questions nationales sur l'anarchie, j'avais trouvé au contraire une utilisation assez subtile, au fond, et très subversive, des arguments tirés de la philosophie des Lumières pour les retourner contre la philosophie des Lumières, ou d'arguments tirés de la justification de la souveraineté du peuple et de l'Assemblée constituante pour les retourner contre elle. Bon, et là, c'est un peu la même chose. Voilà quel est l'argumentaire. Je vais quand même prendre le temps de développer un peu cet argumentaire, puis je reviendrai sur ses présupposés. Donc, tout le monde sait assez ce qu'importe naturellement le mot haine. C'est-à-dire qu'il attaque tout de suite sur la question du sens du mot. Ce que signifie le mot attachement à une constitution par rapport à une autre qu'il faut haïr. Car si la haine est un sentiment intérieur, si l'attachement qui lui est opposé en est un aussi, s'il vous reste quelques doutes sur la signification de ces mots, le citoyen Cholet vous l'apprendra dans le discours qu'il a fait dans le Conseil des 500 au nom de la Commission, où il voulait adoucir ce que le serment semble avoir d'odieux, et où cependant il nous dit, que cet attachement demande une adhésion sincère et entière, formelle et intérieure, principalement aux principes qui forment la base de la Constitution française. Tout le monde connaît assez, et c'est là où il commence un type d'argumentation qui me rappelle quand même fortement la manière d'argumenter de Baruel. Tout le monde connaît assez la liberté et l'égalité, que la liberté et l'égalité sont cette base. Mais il est à remarquer qu'elles ne forment cette base que dans le sens que leur a donné la législature et la Convention. Hein, donc, il reconnaît a priori que les bases de la Constitution française sont bien la liberté et l'égalité. Mais il ajoute tout de suite que cette liberté et cette égalité sont définies par la Constitution française elle-même et par les textes qui ont existé. Et par conséquent, il la restreint en fait, il en restreint la validité. Hein. Et lorsqu'il aborde la question de savoir si le serment peut ou non être prêté, il dit ceci. L'objet immédiat de la loi est un acte extérieur, la prestation du serment. Mais l'objet du serment sont les sentiments, tels qu'ils sont désignés par les mots haine et attachement, c'est-à-dire intérieurs et véritables. La République veut les connaître parce que vous voulez être revêtu d'un emploi ou exercer des fonctions en son nom. Voilà. Alors, il va reprendre ensuite la question de la haine à la royauté, en fait. C'est la seule chose qui l'intéresse. Et il va dire, on nous dit que le serment de haine à la royauté ne pose pas problème, parce qu'il est restreint en fait dans son objet à la seule royauté française telle qu'elle a existé ou telle qu'elle pourrait faire retour. Et que ce qui est en jeu, ça n'est pas de prêter haine à la royauté, mais de prêter haine au retour de la royauté en France. Ce qui à ce moment-là ne poserait pas de problème de conscience théoriquement pour les prêtres. Pas de problème de conscience à partir du moment où l'auteur, et c'est là où pointe une argumentation du type Baruel, on revient en fait à l'idée que le seul véritable fondement moral de jugement pour la conscience d'un prêtre, c'est Dieu, c'est l'Écriture, et que l'Écriture ne l'autorise pas à aller contre elle, et que la loi de la République lui demanderait d'aller contre elle, dans son sentiment intérieur. Hein. Voilà, et voilà ce qu'il dit. Alors d'abord, il démonte l'argumentation que la royauté, ce serait seulement la royauté française. Et il se réfère pour ça au discours que prononce Gara, président du Conseil des Anciens, au moment de la prestation du serment, le 2 pluvieux de l'an 7. Il dit ceci. « Maintenant, l'esprit le plus borné peut faire ou saisir ce petit argument. » Et là, il reprend des éléments du texte de Gara. « Le serment de haine à la royauté doit s'étendre à jamais sur tout genre de tyran ou de tyrannie. » C'est ce qu'on retrouvera, cette formule qu'on va retrouver, la haine en moins. C'est-à-dire la haine effacée dans la dernière formule du serment en l'an 7, lorsque ce serment est révisé. Or, toute royauté est une tyrannie, et les meilleurs rois des tyrans. Donc le serment de haine à la royauté doit s'étendre à toutes les royautés et à tous les rois. Et conclusion, il n'est pas question pour le prêtre que je suis de prêter ce serment. Et ensuite, il en vient à un argument qu'il qualifie lui-même d'argument évangélique. L'argument évangélique, qui est le suivant en fait, c'est que l'Évangile nous a appris que de tout temps, les rois étaient sacrés, et que par conséquent, je ne peux pas prêter serment de haine à la royauté en général. Et comme le serment est bien un serment de haine en royauté en général, je ne peux pas prêter le serment. Et voilà ce qu'il en dit. Que si l'on veut juger du serment et de son contenu véritable, puisque toute la question est que comme le contenu n'est jamais explicité, dit-on, en réalité il l'est tout le temps, constamment, explicité et réexplicité, eh bien il faut pouvoir le comprendre pour savoir se prononcer si l'on peut ou non prêter ce serment. Et il dit, puisque la Constitution française se fonde sur la souveraineté du peuple français, ça n'est donc que relativement à la volonté de la nation que l'on peut juger du serment comme loi française. Ce n'est donc que de ce rapport à la volonté de la nation que les articles de cette Constitution recevront leur moralité constitutionnelle. Ils seront constitutionnellement bons selon la liberté française s'ils tentent à remplir cette volonté, la volonté nationale, quoi qu'ils fussent contraires à la loi éternelle. Ils seront constitutionnellement mauvais s'ils ont une tendance contraire à la volonté de la nation, quoi qu'ils fussent conformes à la loi éternelle et à la loi naturelle. Et ça, c'est bien du Baruel, de glisser de la loi éternelle à la loi naturelle. Enfin, ça ressemble beaucoup à la loi éternelle et à la loi naturelle, qui n'est qu'une émanation imparfaite de l'éternel. Vous voyez donc clairement que dans une constitution dont la liberté française est la base, on préfère essentiellement la volonté de l'homme à celle de Dieu. Et là encore, c'est un argument que Baruel, si c'est lui, avait utilisé en 1791 en disant Je suis d'accord, nulle volonté d'un homme, mon frère, ne peut contraindre ma volonté. Donc, la seule volonté qui peut s'imposer à tous, c'est la volonté de Dieu. Et par conséquent, la monarchie absolue. Voilà, et il soulève deux contradictions. Il dit qu'il y a deux contradictions dans ce serment, en fait. Néanmoins, c'est sans égard à ce que Dieu a établi, sans respecter ce que l'Église a ordonné, sans aussi aucun des traits essentiels au bien spirituel des sujets, que le corps législatif dispose en souverain absolu de cet extérieur et porte des lois qui le concernent sans autre direction que la volonté de l'homme, qui est aussi variable que ses intérêts. Et il en conclut, elle fait schisme avec la religion catholique et ceux qui s'y attachent par serment s'attachent au schisme. Donc première impossibilité, prêter serment, c'est être schismatique. Deuxième contradiction, deuxième impossibilité, de ce que nous venons de dire, il s'ensuit que le prêtre jureur est parjure, alors là ça concerne cette fois-ci la partie de haine à l'anarchie, sur laquelle il revient quand même. Le prêtre est jureur, le prêtre est parjure à chaque fois qu'il exerce le ministère extérieurement, ou il ne doit le faire que par le pouvoir de la République. Cela est clair par son serment de haine à l'anarchie. Il s'est astreint à ne point tendre à l'anarchie par ses actions. Et selon les principes de la République, il y tend lorsqu'il fait une action par un pouvoir qui prend sa source ailleurs que dans la volonté du peuple français. Et comme le prêtre ne peut exercer son sacrement que par un pouvoir qui est extérieur à la République française, puisque c'est Dieu et l'Église, eh bien, il est forcément anarchiste. Par conséquent, il ne peut pas prêter ce serment. Voilà quels sont les arguments qui sont développés. Alors, répondent à cela à la fois des laïcs et des ecclésiastiques, qui reprennent des arguments qui sont à la fois puisés à l'arsenal des arguments politiques que j'ai évoqués tout à l'heure, et en même temps, qui reprennent cette question de savoir si l'Évangile, en fait, interdit de prêter le serment de haine à la royauté. Et ici, il faut bien reconnaître que l'argumentation n'a pas la même vigueur que celle que je viens d'exposer. J'ai en particulier l'exemple d'un ex-chanoine de Strasbourg, septuagénaire, précise-t-il, et qui s'exprime sur cette question, pour dire que si on... En gros, on n'a pas bien compris. Nous, prêtres, on ne nous a pas bien expliqué ce que c'était que ce serment. Si on nous l'avait bien expliqué, au fond, on l'aurait prêté. Bon, alors c'est vrai, on ne l'a pas prêté. Maintenant, on veut bien. Et il retourne, en fait, des arguments qui sont des arguments tirés de la parole divine. Et il dit ceci en particulier. Donc, il ne met pas en cause que pour lui, manifestement, Dieu est bien la source de toute organisation sociale sur Terre. Mais il dit ceci. Il est hors de doute que Dieu peut, dans son immuable sagesse, donner à son peuple telle puissance ou tel gouvernement qu'il lui plaît, selon les décrets éternels de sa providence. Bon, et par conséquent, le prêtre, parce qu'il est prêtre, doit faire acte de soumission au gouvernement, quel qu'il soit. Au fond, il a prêté serment à la royauté. Rien ne s'oppose qu'il prête de même façon serment à la République, car rien ne lie davantage la royauté à l'Évangile que la République à l'Évangile. Bon, quand même une position tout à fait différente de celle que l'on a vue. Voilà. Et puis en même temps, il reprend l'argumentation pragmatique qui est de dire, mais voyez, la République traite avec des rois, donc il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Et surtout, il utilise un autre argument évangélique, celui-là qu'on trouve dans l'argumentation, utilisé dans l'argumentation de gens qui ne sont pas des ecclésiastiques. Ce texte unique, il s'agit de l'Évangile, et il s'agit de la parabole qui dit, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, sans haïr l'un et aimer l'autre. Et ils disent aussi, doit sans contredit suffire pour répondre à toutes les objections que pourraient vouloir faire les amis de la royauté ou les ennemis de la haine que lui font jurer nos législateurs, haine toutefois qui ne porte nullement sur la personne, témoin la République elle-même, qui dans les quatre coins de l'Europe signe journellement des traités d'amitié avec les rois des divers États, qu'elle a sagement rançonné ou qu'elle a visité simplement suivant les circonstances. J'aime beaucoup la formule, mais j'ai un petit doute sur la confiance de l'auteur, tout de même. Et puis, il utilise un dernier argument, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Il dit, de toute façon, d'ailleurs, l'obéissance et la soumission que notre gouvernement exige de nous ne portent que sur le temporel, puisque ce gouvernement ne se mêle plus d'aucun culte. Donc, il n'y a pas de problème, on peut prêter le serment. Alors, derrière ce débat ici, je voudrais en revenir pour terminer au fait que, d'une part, ce fameux argument évangélique, on ne peut pas aimer deux maîtres à la fois, etc., on le connaît bien dans les textes du XVIIe siècle, cette fois-ci. Mais surtout, je voudrais revenir à la question de... parce que c'est une question qui est soulevée. Au fond, prêter un serment de haine est contraire à la morale évangélique en soi. Or, il se trouve que la morale évangélique développe au contraire, ou plus exactement, que la réflexion, ce que j'ai appelé, faute de mieux pour le moment, mais peut-être ça a été nommé comme ça par quelqu'un d'autre, la théorie chrétienne des passions, au XVIIe siècle, pose au contraire des structures qui me paraissent rejouées dans la Révolution. Alors c'est là que je retrouve Del Van Cleef. Alors, je ne vais pas entrer dans un débat avec un livre que pour l'instant je ne maîtrise pas complètement d'abord, hein, mais je ne suis pas sûr que ce que je propose suive d'ailleurs le même chemin que lui. Ce n'est pas du tout la même question. Mais je constate une chose, c'est que, à défaut de suivre une filiation qui conduirait du jansénisme au parti patriote, etc., dont ça je ne sais pas quelle validité on peut lui attribuer ou quelle discussion on peut faire autour de cela, il y a en tout cas une chose qui est certaine, c'est d'où provient le fait que l'on puisse affirmer que la haine est un sentiment positif. D'où provient le fait que le serment de haine est un serment qui est conçu comme pouvant fonder l'ordre social. Or, il se trouve qu'un certain nombre de textes de Saint François de Sales, de l'oratorien Senot en particulier, c'est lui que je vais utiliser, au XVIIe siècle, développent déjà une théorie des passions qui, finalement, se rapproche, ne prétend pas qu'elle rejoue systématiquement, mais autorise de considérer la haine comme étant quelque chose de positif. Le texte de Senot est en particulier tout à fait intéressant et remarquable de ce point de vue-là. Il fait tout un traité sur les passions, en 1641, tout un traité sur les passions dans lequel il construit une série de couples, haine, amour, etc. Puis il y a d'autres couples qui font qu'on peut suivre des équivalences comme ça qu'il va construire. Alors je ne reviens pas sur l'ensemble de ces équivalences, mais dans ce couple haine, amour, voilà ce qu'il dit de la haine. Il évoque d'entrée de jeu la haine comme étant un élément positif parce que c'est la haine de Dieu pour le péché. C'est la haine de Dieu pour le péché et c'est cette haine-là qui est fondamentalement la fondatrice de l'ordre social. Alors il ne l'exprime pas tout à fait comme ça parce qu'on est dans le cadre d'une théorie des passions, qu'on n'est pas encore dans le cadre d'un discours politique qui s'exprime comme politique, mais malgré tout, on n'en est pas très loin. Hein, et peut-être j'ai le temps d'en citer un ou deux éléments. C'est tout, je ne vais pas le développer parce que ce serait trop long. Mais voilà par exemple déjà ce que je disais de l'antinomie ou de l'identité de la haine. Hein, voilà ce qu'il dit lui. C'est donc ce texte qui s'intitule De l'usage des passions. Des lumières de l'âme naissent ses désirs et de sa connaissance, procède son amour ou sa haine. Elle s'attache à ce qui lui est agréable, elle s'éloigne de ce qui lui déplaît. Et ça, c'est des arguments qu'on retrouve dans les débats. Je ne l'ai pas dit parce que je n'ai pas cité mes sources de façon extensive, je ne pouvais pas le faire, mais on le retrouve. Et selon les diverses qualités du bien et du mal qui se présentent, elle excite des mouvements. Et un petit peu plus loin, il présente une autre interprétation du lien entre haine et amour. L'amour est obligeant et la haine est malfaisante, l'amour est généreux et prend plaisir à pardonner, donc ça c'est toujours l'antinomie. Mais voilà comment se résout l'antinomie. Ainsi l'amour du bien est une haine du mal, et cette même passion qui a de la douceur pour ceux qui l'obligent a de la sévérité pour ceux qui l'offensent. Et à ce moment-là, il y a donc identité de nature, et ce sont, me semble-t-il, des éléments qui ne sont pas étrangers à la construction même, à la construction logique du serment de haine de l'an 5. Alors c'est tout, je n'irai pas plus loin, c'est-à-dire je ne vais pas prétendre qu'il y ait une filiation quelconque, ce serait tout à fait hasardeux, mais en tout cas je constate des points de convergence. Et il me semble que, si on veut saisir pourquoi la haine peut être positive dans l'ordre politique, il faut comprendre qu'il y a eu une haine positive avant, dans l'ordre religieux cette fois-ci, mais un ordre religieux conçu comme ordre social, en fait, dans cette théorie des passions. Alors, en revanche, disparaît naturellement qu'il y avait un autre aspect chez Senot et chez ses commensaux, c'est le fait que la haine de Dieu pour le péché doit déboucher sur la haine de soi-même. L'homme doit se haïr lui-même pour pouvoir se rapprocher de Dieu. Alors là, on est évidemment complètement dans un univers intellectuel, moral, et des sentiments qui est étranger, je pense, à la Révolution française. Mais voilà quand même ce point de passage que je voulais signaler pour conclure, c'est-à-dire revenir à la question de savoir pourquoi la haine avait pu être, à un moment donné, considérée comme l'élément fondateur de l'ordre social. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup. C'est passionnant cette affaire. Et puis tu nous obliges à aller travailler sur les théories des passions pour mieux comprendre le droit naturel. Et la manière dont on peut se débarrasser du droit naturel moderne, d'ailleurs. Parce que tout ça, c'est bien lié dans tes propos. Bon, alors on a un gros travail à faire parce qu'on est très en retard. C'est vrai, je crois que là-dessus, on a pas mal de retard sur les théories des passions. Enfin, c'est pas pour moi, là. Hein. Pas pour vous, mais pour moi, en tout cas, c'était pas... Voilà. Enfin, j'ai trouvé que c'était tout à fait intéressant. Bon, mais enfin, je ne vais peut-être pas commencer la discussion. Je vais vous laisser commencer. Je vous donne la parole. Si vous avez envie d'intervenir.